le journal avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Ils ont chacun leur franc-parler et ils ont créé la surprise en entrant au gouvernement. L'avocat Éric Dupond-Moretti est nommé à la justice. Roselyne Bachelot délaisse radio et télé pour revenir en politique. Le ministère de la Culture l'a fait craquer. Vous l'entendrez.
Un spectacle vivant, édition cinéma, audiovisuel, presse écrite. Les dossiers s'empilent déjà sur son bureau rue de Valois.
Avec la crise sanitaire et économique, elle prendra aussi une place de choix dans la reconstruction du pays. Barbara Pompili arrive à la tête d'un super ministère de la transition écologique associé au logement et au transport.
Peu de nouveaux entrants finalement, un remaniement sans queue ni tête, c'est le thème du billet politique de Stéphane Robert après ce journal.
À la une encore le jour J pour les 740 000 candidats au bac, un cru perturbé par la crise sanitaire. La crise qui frappe aussi l'économie en Tunisie, dans un pays où un habitant sur 10 est artisan. Dépendant du tourisme, le manque à gagner est inédit. Elle va tenter de verdir le chemin qu'emprendra Emmanuel Macron pour la fin de son quinquennat, pour mieux faire éclore le nouveau monde qui a vu les écologistes remporter plusieurs grandes villes aux municipales et les propositions de la Convention citoyenne pour le climat être reprises par le chef de l'État. L'ancienne verte Barbara Pompili, 45 ans, jusque la députée de la Somme, a été nommée hier ministre de la Transition écologique, troisième dans l'ordre protocolaire. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Le ministère ne lui est pas inconnu, Véronique.
Non, Barbara Pompili y a officié 14 mois sous le quinquennat Hollande. Entre 2016 et 2017, elle est alors secrétaire d'État en charge de la biodiversité auprès de Ségolène Royal. On peut mettre à son compte l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, dans le cadre de la loi sur la biodiversité. 2017, c'est l'année où Barbara Pompili est réélue députée de la Somme, sous l'étiquette La République en marche, cette fois après avoir été encartée durant 15 ans chez les Verts, dernièrement présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée. Elle fait entendre une petite voix dissonante, timide, au sein de la majorité, sur le nucléaire par exemple, ou les traités de libre-échange comme le CETA. Aussi, ce n'est pas son engagement écologiste que le directeur de Greenpeace France met en doute, mais sa capacité à faire bouger les lignes dans un gouvernement où l'écologie reste un ministère comme un autre. Jean-François Julliard.
Aujourd'hui, on a des doutes sur sa capacité à influencer réellement ce gouvernement, à peser face à un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui lui n'a pas changé et qui n'a pas brillé par ses engagements écologiques. Donc on espère qu'elle va réussir là où d'autres ont échoué. On ne peut que lui souhaiter bon courage, mais il va falloir qu'elle soit extrêmement déterminée et forte pour se faire une place réelle au sein de ce gouvernement.
La mission de Barbara Pompili, Véronique, est donc de porter une écologie de terrain.
Une écologie du quotidien, telle qu'évoquée par le nouveau Premier ministre. Le grand chantier de Barbara Pompili, eh bien, c'est la mise en musique des propositions des 150 citoyens de la Convention sur le climat. Le gros dossier, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est soutenu par Emmanuel Macron, ébranlé par la poussée verte aux élections municipales. Eh bien, le président et le Premier ministre devraient logiquement soutenir Barbara Pompili dans l'exécution de sa feuille de route, sans tarder maintenant, car la fin du quinquennat n'est pas si loin.
Véronique Roberotte, le temps mécompté, c'est ce qu'a souligné de son côté la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, lors de sa passation de pouvoir avec Franck Riester. La nouvelle locataire de la rue de Valois veut elle aussi mettre la culture au cœur du plan de reconstruction de notre pays après la crise du coronavirus, au plus près des territoires, mot d'ordre décidément de ce gouvernement Castex. Roselyne Bachelot, ministre de l'Environnement sous Jacques Chirac, de la Santé sous Nicolas Sarkozy, revenue sur le devant de la scène il y a peu pour sa gestion passée du stock de masques en France. Elle a réservé sa première sortie hier soir en tant que toute nouvelle ministre de la Culture à France Culture. Elle s'est en effet rendue au studio 104 où se tenait la soirée Un rêve d'Avignon. Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, a confié sa joie à Anne Lamotte.
Parfois, quand on m'interrogeait sur « est-ce que vous reviendriez en politique ?», je répondais « non, jamais, sauf pour être ministre de la Culture ». Et c'était comme une sorte de... Vous savez, l'idéal, on se dit, tiens, j'aimerais bien chanter comme la Callas, ou jouer du piano comme Arthur Rubinstein. Puis tout d'un coup, ça vous arrive. Vous voyez le numéro du Premier ministre s'afficher sur votre portable, puisque comme je connais Jean Castex depuis longtemps, j'identifie son numéro, et qui me dit, est-ce que tu rejoindrais l'équipe gouvernementale? Je dis, non. Et il continue, et pour être ministre de la Culture? Et je réponds là, tu me fais craquer. Je me dis qu'il y a une opportunité incroyable à saisir dans les circonstances actuelles sur ces projets culturels, sur cette politique culturelle. Les gens sont dans cette crise qui nous a secoués, qui nous a fait douter de tout, des institutions les plus solides de la République. Ils ont besoin de choses fortes et la culture, c'est vraiment quelque chose qui peut nous réunir, qui peut donner du sens dans une société qui cherche sa route. Je vais vous dire une chose. Moi, j'arrive chez moi, j'écoute de la musique, j'écoute des émissions culturelles, j'essaie d'échapper à la vanité des choses, à la vanité de l'instant, etc., pour des choses qui me parlent, qui m'enrichissent, qui me donnent l'impression quelque part d'être meilleure. La culture, elle me fait aimer les autres.
Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, sur quelle corde culturelle cette ancienne ministre de l'écologie sous Jacques Chirac pourra-t-elle donc jouer Éric Chavroux ?
L'opéra et la musique classique, grande voie pour mener à la rue de Valois. Dans un tweet vendredi dernier, Roselyne Bachelot évoquait Jean Castex comme un fan de musique avec trois points de suspension au terme de son message que certains interprètent aujourd'hui comme un appel du pied. Pourtant, en 2017, puis encore il y a quelques semaines, la pensionnaire des grosses têtes sur RTL rejetait toute idée de redevenir ministre. Mais hier soir, lors de la passation de pouvoir, elle voyait dans ce ministère la plus belle fonction de notre République.
Je serai la ministre des artistes et la ministre des territoires. Dans les prochains jours, je souhaite tenir des états généraux des festivals pour que la saison prochaine retrouve sa vitalité artistique, son rôle de démocratisation et d'irrigation économique.
Chroniqueuse sur France Musique, co-auteur d'un Verdi amoureux ou à l'origine d'un hommage en 3 CD à l'Opéra français, Roselyne Bachelot a confié par le passé son rêve d'être Maria Callas, prise aussi d'une passion récente pour le rap français, allant au concert de Youssoupha. L'ancienne ministre de la Santé, unique députée de droite à avoir voté pour le PACS, tiendra-t-elle sur d'autres registres ? Cette pro des plateaux a la poigne, les muscles nécessaires pour les discussions compliquées qui vont avoir lieu sur les intermittents, sur les suites de la crise, assure son ami d'enfance Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris. En attendant, l'urgence absolue, a-t-elle déjà déclaré hier soir, sera d'aider à la remise en route des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emplois directs et emplois périphériques.
Rendez-vous sur franceculture.fr pour découvrir un article complet sur cette nomination, moins de 2 ans après celle de Franck Riester, qui devient ministre délégué au commerce extérieur.
Roselyne Bachelot et son franc-parler, version souriante, version plus ombrageuse, avec l'avocat Éric Dupond-Moretti, nommé ministre de la Justice.
Une déclaration de guerre, voilà comment les magistrats ont réagi hier soir à cette nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il faut dire que le bouillant avocat ne les a jamais portés dans son cœur. Cette nomination sidère donc Florent Boitard, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats.
C'est pour nous une surprise et puis surtout un symbole qui est très mauvais puisque vient être nommée une personnalité extrêmement clivante qui s'est démarquée ces dernières années en montrant qu'elle détestait les magistrats tout simplement. Donc on a quelqu'un qui comme avocat et comme homme médiatique défend l'idée qu'il faudrait supprimer l'ENM, l'école de la magistrature, alors que c'est une école qui fonctionne bien et qui est reconnue dans le monde entier, notamment par les autres écoles de magistrats pour la qualité de ses enseignements. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait supprimer le juge d'instruction. C'est quelqu'un qui voudrait que les procureurs ne soient plus des magistrats. Donc tout ce qui permet à la justice d'exister, de fonctionner à peu près correctement, il vient de lutter contre finalement. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver, mais il y a en tout cas un très mauvais message qui est adressé quand on voit déjà que dans l'ordre protocolaire, le ministre de la Justice est seulement 11e membre du gouvernement. On voit clairement que la justice n'est pas la priorité, la justice est méprisée. Et puis au-delà de ça, le choix de cette personnalité, encore une fois, c'est un message, c'est une sorte de déclaration de guerre à l'égard des magistrats.
Florent Boitard, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, il répondait à Olivier Vogel. Voilà pour les entrants marquants au gouvernement. Les grands équilibres demeurent, même si la droite prend un poste clé avec l'arrivée voulue par Jean Castex de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Il remplace l'ancien socialiste Christophe Castaner. Deux autres grands portefeuilles restent aux mains de personnalités issues du PS, comme Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères et Florence Parly aux armées. À droite, Bruno Le Maire reste, lui, à l'économie, mais il se voit adjoindre la relance dans son intitulé. Il gagne 2 nouveaux ministres délégués à l'industrie et au PME. Il devra travailler dorénavant avec Olivier Dussopt au ministère des Comptes Publics, un transfuge du PS, alors que son prédécesseur Gérald Darmanin venait lui des rangs LR. Bercy étant désormais son périmètre, Marie Viennot.
Élu député socialiste en 2007, à l'âge de 29 ans, Olivier Dussopt fut à cette époque le Benjamin de l'Assemblée nationale. Proche un temps de la Nouvelle Gauche, un courant fondé par Benoît Hamon, il est élu pour le Parti socialiste en 2017, mais accepte, quelques mois plus tard, de rejoindre le deuxième gouvernement Philippe en tant que secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics. Son accession au poste de ministre est donc une promotion et donne une couleur plus centre-gauche à ce ministère qui, en 2017, avait été confié à deux transfuges de la droite. Autre changement notable, Agnès Pannier-Runacher, qui était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, sans plus de précision, devient officiellement en charge de l'industrie. Elle suivait déjà ces questions, mais depuis 2017, le mot « industrie » avait complètement disparu du vocable gouvernemental. Il revient dans le monde post-Covid-19 que le président de la République souhaite plus indépendant et souverain sur ce plan-là. Dernière nouveauté, les petites et moyennes entreprises auront elles aussi leur ministère délégué avec Alain Griset. Depuis 3 ans, il présidait l'organisation patronale U2P qui représente les artisans, les commerçants, les patrons de TPE, les professions libérales et les indépendants. Bruno Le Maire se retrouve renforcé dans ce nouvel attelage. Il est seul en tête. En dessous de lui, les secrétaires d'État sont devenus des ministres délégués. Manque pour le moment à Bercy son responsable du numérique, qui restera sans doute, on le saura dans quelques jours, un secrétariat d'État.
Le jour J à présent pour les 740 000 candidats au bac. Ils connaîtront leurs résultats aujourd'hui à partir des notes des premiers et deuxièmes trimestres de terminale. À cause de la crise sanitaire, l'optation du diplôme, si symbolique dans la vie d'un lycéen, s'est faite cette année en tenant compte du contrôle continu et des notes de l'année, donc ce qui risque de favoriser les élèves plutôt moyens, car face à cette crise inédite, les jurys ont noté à la hausse. Hakim Kasmi.
En notant leurs élèves jusqu'en mars, les enseignants étaient encore loin d'imaginer que leur évaluation serait les seules retenues pour les résultats du bac. Alors même si les commissions d'harmonisation ont pour but de trouver un juste milieu pour ne pas pénaliser les candidats avec des règles communes, certains établissements auraient décidé de gonfler eux-mêmes les résultats, ce qui ne surprend pas Saïd Bennoufok, président du jury de Villepinte en Seine-Saint-Denis, pour qui cela montre les limites du contrôle continu qui va prendre une part très importante dans le nouveau bac.
Le baccalauréat au contrôle continu est un baccalauréat qui ne garantit plus l'égalité des candidats parce que l'anonymat n'est plus respecté, parce que le contrôle terminal tel qu'il avait lieu jusqu'à présent était la seule garantie possible de l'équité entre les élèves. Et deuxièmement, c'est un baccalauréat qui est un bac dévalué, dévalorisé, parce que au contrôle continu, eh bien, les enseignants vont avoir forcément tendance à ne chercher à ne pas nuire à leurs élèves, donc à faire en sorte d'éviter de leur mettre des notes trop pénalisantes. Ce qui fait que mécaniquement, ça augmentera les moyennes.
De son côté, Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, qui balayait ses dérives il y a encore 3 semaines, commence à reconnaître qu'il a bien reçu ponctuellement des questions sur ce sujet. Quant à la réforme du bac entrée en vigueur pour les élèves de première cette année, le ministère va assouplir le dispositif en donnant plus d'autonomie aux établissements. Il espère ainsi calmer le mécontentement d'une partie des enseignants et des parents.
Quant aux euros de rattrapage, ils se tiendront demain et jeudi. Aux États-Unis, la barre des 130 000 morts de la Covid-19 a été dépassée. Nous avons rouvert beaucoup trop tôt en Arizona, déplore la maire de Phoenix. Inquiétude par ailleurs chez les scientifiques. Ils sont plus de 230 à alerter l'OMS sur la transmission aérienne du virus à plus de 2 mètres, non seulement par la projection de gouttelettes, par la toux, l'éternuement et la parole sur le visage d'autrui ou des surfaces, mais par la suspension des particules virales dans l'air. Invoquant des raisons sanitaires, la Belgique elle a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux voyageurs venant de 15 pays tiers, recommandé pourtant par l'Union européenne, dans l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie, durement éprouvée par la crise sanitaire, elle ne voit pas l'horizon s'éclaircir pour cet été. La correspondance de Maureen Mercier.
Dans l'atelier de verre soufflé de Sadika, ils sont en temps normal une trentaine à tournoyer autour des fours qui brûlent à 1200 degrés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 et dans quelques jours, il faudra même éteindre les fours. Sans touristes et avec des Tunisiens qui n'ont plus les moyens d'acheter du verre soufflé, Sadika n'a plus de liquidité pour payer les artisans qui travaillent à ses côtés.
Jamais on a eu une crise pareille. On a eu des grandes crises après la Révolution ou quand il y a eu les attentats intégristes. C'était vraiment des coups terribles. Mais cette fois-ci, la crise est absolue.
Taher, 30 ans, deux enfants. Aujourd'hui, il ne sait tout simplement plus comment s'en sortir.
Je n'arrive plus à payer mon loyer. Avec ma femme et mes enfants, on a peur d'être mis dehors. C'est déjà arrivé il y a quelques semaines. Le propriétaire nous a jetés à la rue.
Autre souffleur, même galère, le bébé de Zouer est né la veille.
Je n'avais pas l'argent pour sortir ma femme de l'hôpital. Et je leur ai donné ce que j'avais. Et j'ai dû m'endetter pour le reste.
Les frontières ont rouvert le 27 juin. La survie des artisans entre les mains des hypothétiques touristes.
Il y a des jours où je n'arrive plus à acheter de quoi manger.
Cette phrase, ces corps de métier n'avaient jusqu'ici jamais eu à la prononcer. Des mots annonciateurs de la catastrophe humanitaire à venir. L'État tunisien n'accorde aucune protection aux artisans.
Maureen Mercier en Tunisie pour France Culture. Hicham Alchemi, spécialiste des mouvements djihadistes dont le groupe État islamique a été assassiné hier soir devant son domicile à Bagdad. Vague d'indignation en Irak et bien au-delà. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dénoncé hier un acte orwellien de censure de la part de la Chine après que le gouvernement de Hong Kong a ordonné aux écoles de retirer les livres qui pourraient violer la loi sur la sécurité nationale imposée la semaine dernière par Pékin. Le temps de ce mardi 7 juillet ensoleillé dans tout l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera 22 degrés à Lille, 24 à Paris, Nantes, Strasbourg, 26 à Bordeaux, 27 degrés à Lyon, 31 à Perpignan,